le droit à l'éducation est en général conçu comme un droit, comme la plupart des droits, un droit individuel. Le droit à chacun, finalement, de trouver son accomplissement en tant qu'individu, en tant qu'homme, femme, en tant que citoyen, en tant que travailleur, etc. Et je pense, et c'est ça que je voudrais développer, qu'il y a une autre entrée possible à partir de, autour de la notion de commun, qui n'est pas contradictoire, mais qui enrichit cette première notion, ce droit à l'éducation, et en même temps pose des questions dont il faut débattre et sur lesquelles il faut réfléchir. Pour ça, il faut s'interroger sur ce qu'est le savoir. Le savoir, alors quand je parle de savoir, je ne parle pas seulement de ce qu'on apprend à l'école, Vercingétorix, François Ier, Louis XIV, de Fonds IV, l'accord du participe passé. Je parle du savoir au sens large, y compris les savoir-faire professionnels, y compris les savoirs d'expérience des uns et des autres. La caractéristique des savoirs, c'est d'être ce que certains appellent une ressource non rivale. Qu'est-ce que c'est qu'une ressource non rivale ? Puisque Jean-Pierre a évoqué les papes, je vais prendre Saint-Martin de Tours. Quand Saint-Martin de Tours coupe son manteau pour en donner une partie aux pauvres, eh bien, il n'a plus qu'une moitié de manteau. Et donc, il va avoir un peu plus froid. Si j'ai du savoir et que je le partage avec vous, je continuerai à posséder ce savoir. Ça, c'est la première caractéristique de la ressource non rivale. C'est une ressource, quand on la donne à quelqu'un, quand on la partage avec quelqu'un d'autre, on ne la perd pas. Et par ailleurs, le savoir a d'autres caractéristiques qui vont, à mon avis, un peu plus loin. C'est que le partage du savoir permet de l'enrichir et permet de le faire croître. Mais d'une certaine manière, c'est comme ça que fonctionne la recherche scientifique. Il y a des résultats de la recherche, on les met à la disposition de tout le monde, et d'autres s'en emparent et vont enrichir et accroître ces résultats. Mais c'est d'une certaine manière comme ça que ça se passe dans les pédagogies un peu collaboratives. Vous savez, il y a quelques années, il y a des études sur l'école rurale qui montraient que les résultats de l'école rurale, je parle de l'école primaire, étaient en moyenne supérieurs à ceux des autres écoles. Et une des raisons que les chercheurs avaient avancé, c'est que dans l'école rurale, et quand il y avait la même classe, enfin plusieurs niveaux dans la même classe, la collaboration entre les élèves enrichissait pas seulement les plus petits qui bénéficiaient de la collaboration des grands, mais enrichissait aussi les grands parce qu'ils transmettaient un savoir aux élèves. Troisième caractéristique, le savoir et la possession du savoir rejaillit positivement sur d'autres biens communs. Il était plutôt à parler de la santé, mais on peut dire que les pratiques vertueuses en matière d'environnement, par exemple, sont très liées au niveau d'éducation. Et en termes de démocratie, en termes de citoyenneté, c'est évident. Je ne vais pas insister, mais voyez, tout ça montre, fait qu'on ne peut pas seulement fonder le droit à l'éducation sur ce que je disais au début, le droit individuel d'un accomplissement, mais il y a aussi un besoin collectif de partage, de diffusion du savoir, parce que ce besoin collectif va permettre d'enrichir tout le monde et d'enrichir le savoir de chacun. Voilà un peu ce que je voulais dire comme point de départ. Alors, cette conception va, d'une certaine manière, à l'inverse de la conception néolibérale qui fait du savoir une marchandise. Et c'est toutes les théories autour du capital humain. L'idée, c'est à peu près celle-là. C'est que quand on acquiert des savoirs, quand on est éduqué, on va pouvoir gagner plus d'argent et en faire gagner plus à son patron. Et donc, à partir de là, il y a toute une série de théories libérales sur l'éducation où on dit, ben, puisque vous allez gagner de l'argent faisant des études, ben, vous allez payer ces études. Et si vous ne pouvez pas payer ces études, ne vous en faites pas, on va vous prêter de l'argent, et quand vous aurez du travail, vous rembourserez. C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe en Grande-Bretagne. Alors ça a des conséquences sociales considérables. Parce que, évidemment, c'est très dissuasif pour les plus modestes, mais ça fait aussi que les gens qui travaillent ont le poids d'une dette énorme. Aux États-Unis, je crois que la dette des étudiants était supérieure au volume total des encours des cartes de crédit. Enfin, c'est quelque chose de ce type. Donc, ça, ce type de conséquences. En plus, l'expérience en Grande-Bretagne montre qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas rembourser, qui ne remboursent pas. Donc, c'est de l'argent perdu pour l'État. Mais surtout, ça place l'acquisition des savoirs et l'éducation dans un système de concurrence inter-individuelle où on va avoir intérêt à ce que les autres n'aient pas ce que vous avez. Et c'est un peu ce qui se passe dans les systèmes de concours, d'une certaine manière. Vous savez, une collègue m'a raconté une anecdote. Son fils est en classe préparatoire, là. Il y a au programme, le colonialisme, enfin la France et ses colonies. Il y a un livre qui fait référence, on ne le trouve plus, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont acheté tout ce qui était disponible pour que les autres ne l'aient pas. Voilà. Et là, ça n'est pas le bien commun. Et évidemment, ça va totalement à l'opposé du commun. Alors ça implique évidemment le rôle du service public. Si la Constitution de 1946... Jean-Pierre n'est pas là, donc je peux peut-être dire une bêtise, me tromper sur le mot à mot, dit à peu près que c'est un devoir central de l'État que d'offrir un service public d'enseignement laïque. C'est entre autres pour ça. Je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, mais je veux dire plusieurs choses. Un, que ce service public aujourd'hui est menacé. Et il est menacé à la fois par l'existence d'enseignement privé, mais il est aussi menacé à l'interne par le développement des logiques de concurrence et de concurrence entre individus et entre établissements. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il faut aussi interroger ce service public et la manière dont il fonctionne. Parce que l'éducation, et ce que j'ai dit sur les savoirs tout à l'heure, va dans ce sens, d'une certaine manière, c'est une forme de coproduction, d'interaction entre celui qui dispense un savoir, celui qui le reçoit, mais celui qui le reçoit n'est pas, c'est pas une bouteille qu'on remplit. Il a aussi des choses à dire. Et donc, ça implique des pédagogies qui permettent cette interaction. Mais ça implique aussi, peut-être plus que dans d'autres secteurs, qu'on fasse ce qui a été évoqué dans la table ronde précédente, qu'on se pose la question de la démocratisation et notamment de l'association des usagers, que sont les élèves, en tout cas au lycée, et que sont les familles au fonctionnement du système éducatif. Or, c'est compliqué, parce que là, on trouve absolument la problématique qui a été évoquée dans la précédente table ronde de l'articulation entre l'intérêt particulier, l'intérêt local et l'intérêt général. C'est compliqué, mais si on ne le traite pas, on perd quelque chose, et y compris on perd quelque chose pour la défense du service public d'éducation. Mais ça pose des problèmes au-delà. Alors, et ça pose des problèmes qui interrogent pas seulement l'éducation formelle, le service public, mais aussi l'éducation informelle et tout ce qui est éducation populaire. Cette problématique, elle vaut aussi pour l'éducation populaire. Et ça pose des tas de questions. Ça pose, par exemple, la question de la propriété intellectuelle qu'on a vaguement évoquée ce matin pour la culture. Il y a eu un épisode tout à fait intéressant dans l'élaboration et le vote de la loi sur la République numérique. Se poser la question de la mise à la disposition des résultats des recherches scientifiques via Internet. Et la communauté scientifique, notamment tous les chercheurs, le CNRS, militait très fort pour que les résultats des recherches publiques ne soient pas la propriété des revues qui les éditent. Et il y a eu un bras de fer. Et là, le combat n'était pas entre les auteurs et le public, il était entre les auteurs scientifiques du service public et les éditeurs de revues. Et la loi a trouvé un compromis, plus ou moins intéressant, en gros, qui dit quand une recherche a été financée au moins à 50% par des fonds publics. Au bout de 6 mois, elle peut être mise à la disposition du public s'il s'agit de recherche scientifique. Je crois que c'est 12 mois pour les sciences humaines. Et elle peut être mise à la disposition du public immédiatement si l'éditeur lui-même met à la disposition du public. Je caricature un peu. Mais voyez le type de problématique qu'on a. Il y a une problématique encore plus complexe, c'est celle de l'utilisation des données, ce qui s'appelle en bon français le text and data mining, je crois. Comment on fait ? Je donne un exemple encore très concret. Ces jours, on auditionnait un monsieur, chef d'entreprise, très libéral, qui nous démontrait que le libéralisme, c'était le nec plus ultra et qu'en réduisant au maximum les dépenses publiques, notamment en privatisant la protection sociale, on avait devant nous un horizon de croissance. Et il nous montre une courbe qu'il a faite. Il nous dit, pour cette courbe, j'ai dû acheter les données à la Banque mondiale. Voyez, cette diapositive m'a coûté 10 000 euros. J'étais assez stupéfait de ça, parce que dans une démarche de partage des connaissances et de recherche, pourquoi aller payer, faut-il aller payer 10 000 euros à la Banque mondiale pour avoir des données qui sont des données qui, en fait, sont des données publiques, sont des données économiques des États, etc. Donc il y a ce type de problème qui est à traiter. Et puis, il y a le développement d'Internet et tout ce que ça permet en termes de collaboration et de construction collective de reconnaissance. Il y a l'exemple bien connu de Wikipédia. Wikipédia est devenu aujourd'hui une source de connaissances. Wikipédia, c'est des dizaines de milliers de gens qui contribuent à Wikipédia. C'est pas, il n'y a pas de spécialistes qui écrivent dans Wikipédia. En théorie, tout le monde. En pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais ce que permet Wikipédia, c'est, ça permet à tout le monde de regarder qui a écrit quoi et de vérifier. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des abus. On sait que certains articles sont limites parce qu'il y a de l'idéologie et de la politique. C'est pas toujours aussi objectif que ça. Mais c'est en même temps une expérience extrêmement intéressante. Mais si je parle dans le domaine scientifique, par exemple, il y a un site qui doit s'appeler Zooniverse, qui est un site dédié à l'astronomie, où les gens qui s'intéressent à l'astronomie ont participé à une classification des galaxies à partir des données venant du télescope Hubble. C'est-à-dire qu'ils ont créé collectivement une production scientifique, sans être nécessairement scientifique professionnel. Il y a un jeu qui s'appelle Foldit, alors peut-être que Didier Tabuteau connaît mieux, je ne connais pas très bien, il s'agissait de travailler sur des protéines à partir d'un jeu. Et ce jeu a permis d'avoir des découvertes sur je ne sais plus quelle protéine qui était une des sources du sida chez le singe. C'est-à-dire là, la collaboration d'individus très divers sous la forme d'un jeu permet de créer des connaissances qui vont pouvoir être utilisées dans le monde scientifique et avoir des résultats. Tout ça pour conclure sur le fait que si on réfléchit à l'éducation, c'est sans doute un peu plus qu'un bien inaliénable. C'est un bien dont le partage permet l'enrichissement et implique sans doute qu'on réfléchisse, y compris à des formes inédites de partage, au-delà de ce que le système éducatif fait et doit évidemment continuer à faire en tant que service public.